Bonjour à toutes et à tous, particulièrement bienvenue ceux, celles que je vois pour la première fois en tout cas parmi nous. Et cet après-midi, nous poursuivons notre série de prédications sur le thème « Suivre Jésus ». Suivre Jésus qui est une des manières bibliques de parler de la vie chrétienne. Et la semaine dernière, nous avons vu à travers l'histoire de Pierre ce que signifie « aimer » et suivre Jésus jusqu'au bout. C'est un engagement pour la vie. Et en parlant d'engagement, est-ce que certains d'entre vous se souviennent de leur JAPD ? La journée d'appel de préparation à la défense. Aujourd'hui, en fait, ça a changé de nom, ça s'appelle la journée défense et citoyenneté, la JDC. Et si ce n'est pas vous, c'était peut-être vos enfants qui ont participé à cette fameuse journée. Et ça existe depuis 1997. Cette journée est particulière dans la vie d'un adolescent. Ce jour-là, il ne va pas en cours, mais il est affecté quelque part avec d'autres jeunes pour entendre parler des enjeux et des objectifs de la défense nationale. Et également pour entendre parler de différentes formes d'engagement. Et justement, le mot « engagement » est là. On nous parle d'engagement durant cette journée. Et c'est une des manières pour les jeunes de savoir à quoi s'attendre s'ils veulent s'engager auprès des forces armées. Sous une autre forme, Luc nous rapporte trois situations qui donnent l'occasion à Jésus de dire ce que cela implique de le suivre, de s'engager avec lui. C'est une manière pour nous de savoir à quoi nous attendre si nous voulons suivre Jésus. Pour situer un peu où nous en sommes dans l'évangile de Luc, il faut d'abord dire que nous nous trouvons dans la section centrale, de l'évangile, qui commence au chapitre 9, verset 51, jusqu'au chapitre 19, verset 44. C'est la partie centrale de l'évangile. Et il se trouve que, à ce point du récit, Jésus marche résolument vers Jérusalem. Vers Jérusalem où le plan de Dieu va s'accomplir pour le salut du monde. Marcher vers Jérusalem, pour Jésus, cela signifie marcher vers la croix. Vers sa mort sur la croix. Qui règle, une fois pour toutes, la question de notre péché. Et sur ce chemin, comme nous l'avons lu dans le texte à l'instant, sur ce chemin, des personnes manifestent leur désir de suivre Jésus. Et les paroles du Seigneur peuvent nous paraître surprenantes, exigeantes. À bien des égards, Jésus n'est pas un maître comme les autres. Et nous le verrons tout à l'heure. Et si pour l'époque, suivre Jésus avait d'abord un sens littéral, on l'accompagne partout où il va. Eh bien, qu'est-ce que cela implique de suivre Jésus à notre époque, aujourd'hui, alors qu'il est physiquement absent ? Cet après-midi, le Seigneur nous appelle à le suivre à 100%. Dans ce texte, le Seigneur nous appelle à le suivre à 100%. Et je vous propose d'examiner de près trois aspects de l'engagement que Jésus attend de ses disciples. Trois aspects de l'engagement que Jésus attend de ses disciples. Et d'abord de dire que c'est un engagement coûteux. Dans ce voyage en direction de Jérusalem, Jésus sait où il va. Jésus sait où il se rend. Mais ce n'est pas le cas pour les personnes qui veulent le suivre. Bien sûr, elles entendent dire que Jésus se rend à Jérusalem, mais sans imaginer un seul instant que c'est pour y donner sa vie. Et pourtant, on a ce personnage, cet homme. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » En voilà un qui est particulièrement motivé, sans doute impressionné par l'enseignement de Jésus, par ses miracles. Il est prêt à suivre Jésus partout où il ira. Il est prêt à l'accompagner partout dans ses déplacements, ici ou là en Israël. Et dans le texte parallèle que nous trouvons dans Matthieu chapitre 8, nous apprenons que celui qui tient de tels propos est un spécialiste de la loi. Quelqu'un qui a déjà reçu une formation, qui a déjà étudié, et pourtant, il veut suivre Jésus. Alors Jésus ne dit pas « Super, un disciple de plus, un follower de plus !» Non, Jésus dit autre chose. Verset 58. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » C'est une chose à savoir pour celui ou celle qui veut suivre Jésus. Le Seigneur compare ici sa situation à celle des renards et des oiseaux. Ces animaux, au moins, ont un lieu où dormir, un lieu où se réfugier. Mais la situation de Jésus, le Fils de l'homme, est plutôt incertaine. Jésus n'a pas de lieu fixe. Il voyage avec ses disciples et de lieu en lieu, ils dépendent de l'hospitalité des autres. Et quand on y pense bien, ce n'est pas toujours facile de trouver de la place pour un maître et ses 12 disciples. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Et pour cette époque, celui ou celle qui veut suivre Jésus, eh bien celui ou celle qui veut suivre Jésus doit considérer que ce ne sera pas facile, que ce ne sera pas de tout repos, que ce ne sera pas forcément confortable. Et ce spécialiste de la loi s'attendait peut-être plus à suivre Jésus sans penser à toutes ses difficultés. Et en cela, Jésus se distingue des enseignants de son temps, des maîtres de son temps, des rabbis, comme on les appelait. Il ne s'agit pas seulement de l'accompagner là où il se rend et d'écouter son enseignement, ce qui est à la portée de tous. Mais avec Jésus, cela signifie aussi être prêt à vivre dans l'incertitude, dans l'inconnu. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où poser sa tête. Le ministère itinérant de Jésus implique qu'il dépend de l'hospitalité des autres et parfois, il n'est pas reçu par les autres. Juste avant notre texte ici, Luc nous raconte un épisode qui se passe en Samarie. Je vous propose de le lire avec moi, au chapitre 9, verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Jésus n'était pas forcément bien accueilli partout où il allait. Et suivre Jésus, c'est aussi s'exposer à un tel rejet. Le disciple qui veut suivre Jésus doit mesurer ce que cela implique de sa part. Quel est le prix à payer? Et Jésus, dans notre texte, veut s'assurer que cet homme, dans notre histoire, que cet homme sache à quoi il s'engage. Et pour celles et ceux d'entre nous qui se sont engagés envers Jésus, qui se sont engagés à le suivre, cette parole du Seigneur nous rappelle que cet engagement est coûteux. Cette semaine, j'avais cette discussion au sujet de la vie des missionnaires dans certains pays en voie de développement. C'est une vie qui est loin d'être simple, loin d'être confortable, du moins selon la définition occidentale du confort. C'est même parfois une vie dangereuse quand on y pense. Et pourtant, ces missionnaires, sachant cela aujourd'hui, ces missionnaires ont répondu à cet appel du Seigneur. Et ils le suivent dans des conditions de vie que nous ne sommes pas tous appelés à vivre, que nous ne serions pas tous capables de vivre. Gardons à l'esprit que suivre Jésus, être fidèle à notre Seigneur dans un monde qui lui est hostile, n'est pas de tout repos. Le rejet des autres, et notamment de nos proches, est une épreuve difficile à vivre. Nos frères et sœurs persécutés dans le monde en savent quelque chose. Et vous en savez peut-être aussi quelque chose. Mais souvenons-nous que ce rejet est lié à notre appartenance à Jésus, qui a lui-même subi ce rejet de la part des autres. Et c'est ce qu'il dit, ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 20. Jésus dit à ses disciples, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » À un moment ou à un autre de notre vie chrétienne, le rejet, voire la persécution, fait et fera partie de notre expérience. Et Jésus, qui l'a lui-même expérimenté jusqu'à la croix, ne nous cache pas cette réalité. Es-tu prêt, es-tu prête à t'engager à ce prix-là ? Suivre Jésus, c'est un engagement qui coûte. Et en même temps, c'est un engagement qui se distingue des autres parce qu'il est prioritaire. Cette fois-ci, Jésus appelle un autre à le suivre. C'est ce que nous voyons au verset 59. Il dit à un autre, « Suis-moi !» La semaine dernière, nous avons entendu ces mêmes mots adressés à Pierre. « Suis-moi !» Et effectivement, lors de son ministère terrestre, Jésus a appelé des personnes à le suivre. Certains ont répondu positivement et ont tout quitté pour marcher avec lui. Et d'autres, au contraire, sont partis tout tristes, comme le jeune homme riche, qui tenait plus à ses biens qu'à Jésus. Mais qu'en est-il de cette personne-là, dans Luc 9 ? Eh bien, voici ce qu'il répond. « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Il semble de prime abord que la personne parle de son devoir filial en voulant enterrer son père qui venait de décéder. C'est ce qu'il veut faire d'abord avant de suivre Jésus. Et à cette époque, s'occuper des funérailles de son père faisait partie des devoirs les plus considérés dans la piété juive. Et négliger ce devoir serait tout simplement honteux. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, un décès marque un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt dans notre train de vie. C'est un imprévu qui nécessite de tout mettre entre parenthèses pour s'occuper des formalités administratives, pour organiser les obsèques. Et sans doute que nous ne sommes pas loin de penser comme cette personne qui veut s'acquitter de son dernier devoir envers son père. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Pourtant, la réponse de Jésus est plutôt étonnante. Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Je crois que pour l'époque, comme pour aujourd'hui, cette parole de Jésus a de quoi choquer. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici ? N'a-t-il pas compassion envers cette personne endeuillée ? Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent que d'aller enterrer un parent ? Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent que d'aller enterrer un parent ? Jésus répond, « Va annoncer le royaume de Dieu. » Alors, il faut bien saisir le contexte de l'époque. Contexte à la fois historique et culturel. Jésus est sur terre à ce moment-là. Il est en chemin vers Jérusalem, comme nous l'avons dit. Ses disciples l'accompagnent. Le message qu'il annonce et que ses disciples vont annoncer a un caractère urgent. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. changer de vie? Est-ce que Jésus va attendre que cette personne se décide? Dans le contexte, suivre Jésus ne pouvait pas attendre. Jésus va de lieu en lieu, c'est maintenant qu'il faut le suivre. En somme, Jésus met en balance un des devoirs les plus importants de l'époque et le fait de le suivre. Qu'est-ce qui vient en premier? Clairement, Jésus souligne le caractère prioritaire de son appel dans une société où les devoirs familiaux étaient particulièrement importants. Répondre à l'appel de Jésus, suivre Jésus, s'engager avec lui est prioritaire sur toute autre considération. Il y a plus urgent que ce devoir filial que les Juifs tenaient en haute estime. Suivre Jésus, pour le dire encore autrement, est un engagement supérieur à tout autre engagement. Comparé aux autres rabbis de son temps, ce que Jésus demande à ses disciples est un engagement beaucoup plus fort. Ce n'est pas juste un enseignant qui lance cet appel. C'est Dieu fait homme. C'est le Seigneur qui lance cet appel. Le Seigneur qui a le pouvoir de régler le principal problème dans notre vie. Le principal problème qui nous sépare de Dieu, c'est-à-dire le péché. C'est le Seigneur qui lance cet appel. Donc, l'engagement que nous avons envers Jésus est supérieur à tout autre engagement. L'accent est donc mis sur la priorité que nous donnons à notre engagement envers Jésus. Et parfois, c'est vrai, cela entre en conflit avec ce que notre famille peut attendre de nous. Et pour certains, le seul fait de venir au culte le dimanche au lieu de rester à la maison, est mal compris quand notre entourage ne croit pas en Dieu. Le seul fait de venir au culte le dimanche, au lieu de rester à la maison, peut être mal compris. Et c'est une réalité que j'ai moi-même vécue. J'ai grandi dans une famille où mon père, non converti, ne comprenait pas mon investissement dans l'Église, et encore moins mon engagement envers le Seigneur. Avec ma mère et ma sœur, nous allions à l'église pendant que lui restait à la maison, et cela durant des années. Je sais que certains d'entre nous, dans l'église, vivent cette situation, laissant un conjoint, des parents, des enfants à la maison. Et pourtant, dans ce cas précis, nous ne cessons de témoigner que Jésus est premier. Et cela peut être mal compris, cela peut être même mal vécu par les autres. Mais cela fait partie de notre témoignage chrétien. Parce que nous disons aux autres que rien ne passe avant Jésus, pas même la famille. Notre engagement envers Jésus est supérieur à tout autre engagement. Jésus n'est pas en train de nous dire de ne pas aimer notre famille ou de négliger des obsèques. Ce serait contraire à l'enseignement du reste de la Bible. Mais il nous demande clairement de l'aimer plus que notre famille. Et de ne pas le renier, par exemple, si notre famille nous le demande. Chose fréquente pour nos frères et sœurs persécutés. Voilà ce que cela implique de suivre Jésus. Et pour finir avec mon père, aujourd'hui mon père me comprend et me soutient dans mon ministère parce que le Seigneur lui a fait grâce entre-temps. Et je dis cela pour encourager celles et ceux qui vivent cette situation compliquée d'être peut-être le seul chrétien, la seule chrétienne de la famille. Que le Seigneur demeure votre priorité. Il y a un autre détail sur lequel j'aimerais insister, que nous trouvons dans cette phrase, dans cette parole de Jésus. « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Laisse les morts enterrer leurs morts. Ce serait presque un proverbe. Autrement dit, laisse ceux qui sont spirituellement morts, laisse ceux qui ne se préoccupent pas du royaume de Dieu s'occuper des affaires de la vie courante. Mais pour toi, et là je me place dans la situation de l'époque, mais pour toi, il n'y a pas de temps à perdre. Suis-moi et annonce avec moi la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Y a-t-il dans notre vie quelque chose de plus urgent que d'annoncer le royaume de Dieu, d'annoncer l'évangile? Est-ce que la mission que le Seigneur a donnée à ses disciples a conservé pour nous son caractère urgent? Alors, si nous remettons les choses en perspective pour nous, qu'est-ce qui est plus urgent dans la vie que la réconciliation de notre entourage avec Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent dans notre vie que la réconciliation de notre entourage avec Dieu? À l'époque déjà, c'était plus urgent que d'enterrer son père. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles urgences qui prennent parfois le pas sur notre mission? Sache qu'annoncer l'évangile est toujours une urgence. Parce que tu ne sais pas quand la personne quittera ce monde. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur reviendra. Et tu sais qu'à ce moment-là, ce sera trop tard. Annoncer l'évangile est toujours une urgence. Et demandons à Dieu de nous aider à gérer cette urgence. Et en même temps, ayons confiance qu'il sauvera les personnes au moment opportun. Il y a tellement de personnes autour de nous qui ont besoin de rencontrer Jésus. Suivre Jésus implique de s'engager d'une manière qui finit tôt ou tard par nous coûter. C'est ce que nous avons vu au début. Mais cela signifie aussi que face à d'autres devoirs, Jésus conserve la priorité. Et annoncer l'évangile devient une priorité. Et pour renforcer encore ces exigences, regardons la troisième situation. Pour un engagement entier. Le troisième cas est une synthèse des deux autres. La personne veut suivre Jésus et en même temps, elle a une affaire d'abord à régler. Verset 61. « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Là aussi, nous pourrions nous dire, mais qu'est-ce que cela coûte que cette personne aille d'abord faire ses adieux à sa famille? Pourquoi Jésus n'approuve-t-il pas un tel comportement? Et la réponse de Jésus est catégorique. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure avec Jésus. Il n'y a pas le temps de regarder en arrière. L'engagement envers Jésus doit être entier. Et celui qui dit « Je te suivrai » ne peut pas se permettre de se donner un délai et de dire « Permets-moi d'abord ». Peut-être, comme le suggèrent certains, que Jésus discerne ici que la famille de cette personne pourrait être un frein, pourrait être un obstacle suffisamment grand pour que cette personne-là abandonne finalement l'idée de suivre Jésus. Les siens voudront peut-être le retenir. Et puis pour lui, dire adieu à sa famille, ça peut être difficile. Peut-être plus difficile qu'il ne le pense. C'est peut-être un déchirement qu'il n'est pas prêt à consentir. Et finalement, il ne reviendra pas vers Jésus. Imaginez un instant si nous pensons à deux des disciples de Jésus, Jacques et Jean. Imaginez que Jacques et Jean avaient donné exactement la même réponse que cette personne. Ils disent à Jésus, « Nous te suivrons, mais permets-nous d'abord de régler les dernières affaires avec notre père. » Tu comprends, il faut qu'on lui explique qu'on ne va plus travailler avec lui. Non, Jacques et Jean n'ont pas répondu de cette manière-là. Ils ont tout laissé, leur métier, et leur père. Les commentateurs ont aussi suggéré que cet épisode fait penser à l'appel qu'Élisée a reçu. Dans 1 Roi 19, nous lisons cet épisode où le prophète Élie s'approche d'Élisée. Je vous invite à suivre la lecture avec moi, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Vous m'accorderez qu'il y a quand même des similitudes avec notre passage. Dans ce texte que nous avons sous les yeux, le prophète Élie permet à Élisée de prendre congé de ses parents avant de le rejoindre, avant de le suivre. Mais Jésus se montre plus exigeant qu'Élie. Parce que Jésus est plus grand qu'Élie. Suivre Jésus, c'est plus que suivre un prophète. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'appel du Seigneur en personne. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Alors je vous ai mis une image, si vous n'arrivez pas à imaginer à quoi ça ressemble de tenir la charrue. Mais celui qui veut travailler la terre, qui veut labourer, mais qui se met à regarder en arrière, eh bien, fera n'importe quoi. En tout cas, il n'arrivera pas à tracer droit son sillon. Jésus utilise cette image agricole pour nous faire comprendre combien nous avons besoin d'être disponibles pour lui, d'avoir une disponibilité entière, un cœur entier pour le suivre. Le disciple ne peut pas avoir un cœur partagé. Et cela constitue sans doute un défi de taille pour nous. À notre époque, nous pouvons si facilement être dispersés. Et tout comme cette personne qui veut à la fois suivre Jésus et dire au revoir à sa famille, nous avons parfois le cœur partagé entre Jésus et une chose qui nous tient à cœur. Mais je dois le dire là, cette demi-mesure ne vaut rien aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus. Cette demi-mesure, ce cœur partagé ne vaut rien aux yeux de Jésus. Celui qui n'est pas totalement pour lui est disqualifié. Et dans le cas de cette personne, c'est sa famille qui peut freiner son engagement. Pour les lecteurs contemporains de Luc, c'est peut-être leur allégeance à César qui était tellement importante à cette époque. Et pour nous aujourd'hui, c'est peut-être une relation amicale ou amoureuse. Pour d'autres encore, c'est un loisir qui prend tellement de place, tellement de temps, une passion qui nous fait négliger jusqu'à notre famille. Concernant l'argent, Jésus enseigne dans Luc 16 que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Et si suivre Jésus implique de quitter certaines choses et parfois certaines personnes, nous ne pouvons pas envisager de retour en arrière. Ce que nous laissons derrière nous doit rester derrière nous. Autrement, Jésus dit que nous ne sommes pas faits pour le royaume de Dieu. Si notre cœur n'est pas disponible ou entier, nous ne sommes pas faits pour suivre Jésus. Alors, je pourrais m'arrêter là et on déprimerait tous. Mais la bonne nouvelle, Vous voulez connaître la bonne nouvelle ? Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous comprenons la grâce incomparable que Dieu a manifestée envers nous, en Jésus-Christ, c'est lorsque nous comprenons cette grâce que nous retrouvons le zèle de nous donner à Jésus à 100%. Et j'aimerais, pour illustrer cela, vous lire ce passage où l'apôtre Paul écrit à Tite et il parle de la grâce de Dieu. Et voyez les effets de cette grâce. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Qu'est-ce qui nous motive à nous donner tout entier à Jésus ? La grâce que nous avons reçue. Comme le dit l'apôtre Paul, Jésus s'est donné lui-même à la croix en payant pour tous nos péchés. Il est allé à Jérusalem pour ça. Il s'est donné pour nous. Et Dieu a dit oui à son sacrifice en le faisant revenir d'entre les morts. Un oui à ce sacrifice qui nous permet d'être pardonnés, d'être justifiés, d'être réconciliés avec Dieu. Et tout cela sans aucun mérite de notre part. Jésus a absolument tout accompli. Alors oui, à celui qui s'est donné lui-même pour moi, je veux à mon tour me donner à 100% pour lui et entièrement. Qu'est-ce qui nous motive à nous donner tout entier à Jésus ? Sa grâce. Retenons cet après-midi que Jésus nous appelle à le suivre à 100%. Et comme nous l'avons vu, Jésus nous appelle à un engagement coûteux. La vie des chrétiens n'est jamais de tout repos. Jésus nous appelle à un engagement prioritaire. Jésus passe avant tout le reste, y compris notre famille. Et proclamer son royaume fait partie de nos tâches prioritaires. Et enfin, Jésus nous appelle à un engagement entier. Il n'y a pas de demi-mesure ou de retour en arrière. Suivre Jésus implique d'être entièrement disponible. Et je vous l'accorde, ces exigences sont élevées, mais elles sont élevées à cause de celui qui nous appelle. Si quelqu'un d'autre que Jésus avait ce genre d'attente à notre égard, nous pourrions nous dire « mais pour qui il se prend ?» Mais Jésus n'est pas un maître comme les autres. Ce n'est pas un homme comme les autres. C'est celui qui s'est donné pour toi, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui t'appelle encore cet après-midi. Je vous invite à fermer les yeux. Que nous puissions tous fermer les yeux. Et je vais poser deux questions qui vont vous amener à répondre à la parole de Dieu. D'abord, pour celles et ceux qui n'ont jamais pris de décision claire par rapport à Jésus. La question est, veux-tu le suivre à 100% aujourd'hui ? Après avoir entendu tout ce qui a été dit, veux-tu le suivre à 100% aujourd'hui ? Et si c'est le cas, tu peux simplement, de ta place, lever la main. si tu n'as jamais pris de décision claire par rapport à Jésus, veux-tu désormais le suivre à 100% aujourd'hui? Et tu peux lever la main de ta place. La deuxième question est pour celles et ceux qui connaissent le Seigneur depuis un moment et qui pourtant ne sont plus aussi consacrés qu'avant. Veux-tu de nouveau suivre Jésus à 100%, avec un cœur entier, quel qu'en soit le prix? Veux-tu de nouveau le suivre à 100%? Et de la même manière, de ta place, tu peux lever la main. Veux-tu te donner à 100% pour lui? Prions ensemble. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Et par moments, c'est vrai, elle nous bouscule. Elle nous pousse dans nos retranchements à pouvoir considérer combien cela coûte finalement de te suivre, de suivre ton Fils Jésus que tu as envoyé pour nous sauver. Seigneur, tu as vu aussi les mains levées et ceux qui se sont engagés de nouveau avec toi. Seigneur, nous te prions que ta grâce produise son effet dans la vie de mes frères et sœurs. Et pour toutes celles et ceux qui sont prêts à se donner à 100%, j'ai cette assurance que tu te tiens près d'eux et que tu les accompagnes sur ce chemin. Seigneur, pardonne-nous pour toutes nos demi-mesures et toutes les fois où nous n'avons pas été disponibles pour toi. Pour toutes les fois où nous avons négligé la priorité et l'urgence de proclamer l'Évangile. Mais aujourd'hui, tu nous accordes encore ta grâce. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir tellement compassion de nous, de nous laisser encore la possibilité de revenir à toi. Oui, Jésus-Christ a tout accompli pour se constituer un peuple qui soit purifié, zélé pour de belles œuvres. Et l'Église de Saint-Maur, c'est ce que nous voulons être. Tout cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen.